France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Une femme pour un homme. À 2 mois et demi des élections municipales, pour la première fois, la loi impose une stricte parité aussi dans les communes de moins de 1000 habitants. Ça veut dire que les listes doivent être égalitaires avec une alternance parfaite femmes-hommes obligatoire. Il y a encore du chemin à faire. On compte 37% de femmes dans les conseils des communes de moins de 1000 habitants et moins d'un maire sur 5 est une femme. Alors est-ce un progrès ou une contrainte? Cherchez la femme, les hommes qui constituent leur liste disent qu'elles ne sont pas faciles à trouver. Y a-t-il encore le syndrome de l'imposteur ou les femmes ont-elles d'autres priorités que l'engagement? Faut-il vraiment passer par une loi pour imposer leur présence? Et vous, électeurs, êtes-vous prêts à élire une femme? Ça questionne aussi notre rapport au pouvoir. Alors si vous êtes engagé dans la vie de la cité, homme ou femme, parlez-nous des raisons de votre engagement. Vous êtes une femme, vous avez finalement renoncé à exercer un mandat ou au contraire, vous êtes sur une liste pour la première fois. Racontez-nous, engagez-vous, rengagez-vous. C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Charlotte.
Bonsoir.
Et on débute l'émission avec vous. Charlotte.
Oui, bonsoir.
Mais bonsoir, nous vous écoutons Charlotte. Vous êtes maire d'une commune, vous?
Oui, tout à fait, je suis maire d'une commune de 22 000 habitants en Seine-Maritime. Depuis maintenant 6 ans, j'ai été élue en 2019 et c'est vrai que la situation des femmes en politique, elle n'est pas forcément très facile. Mais comme pour les femmes dans la société, notamment dans l'exercice du pouvoir, parce que finalement, ce sont des mondes pensés par les hommes, pour les hommes, et il faut réussir à se faire sa place. On attend notamment des femmes qu'elles aient un positionnement peut-être parfois discret, qu'elles ne se fassent pas trop entendre. Et sinon, c'est vrai qu'on peut paraître parfois comme, je dis souvent ce mot, et désolé par avance de l'expression, mais l'emmerdeuse de service, simplement parce qu'on ose parfois dire qu'on n'est pas toujours d'accord avec les décisions qui peuvent être prises ou les directions qui peuvent être prises.
Ça vous arrive souvent, ça, Charlotte ?
Alors moi, j'ai pris le parti, oui, de prendre ma place et de l'assumer et de dire quand je ne suis pas d'accord et quand j'ai parfois des visions différentes. Donc ça peut m'arriver, je pense, que les autres, notamment les hommes, me voient ainsi.
Vous avez des exemples à nous donner, Charlotte ?
J'ai parfois avec des collègues des discussions. Alors ils le disent pas ainsi, mais ils peuvent parfois soit ne pas répondre ou répondre d'une manière un peu
désinvolte.
Oui, voilà, désinvolte en disant oui, bon, on verra. Enfin voilà, donc parfois des choses que l'on propose ou que l'on dit peuvent ne pas être prises au sérieux, mais je ne voudrais pas décourager les femmes.
Ah, ça c'est le message d'après, oui. Dites-le.
Voilà, à s'investir parce que c'est important d'œuvrer pour l'intérêt général, d'œuvrer pour le bien public. On a la satisfaction quand même
voilà.
De voir les dossiers avancer, de voir aussi certains sujets que l'on peut mettre en œuvre, changer le quotidien aussi des habitants pour lesquels on œuvre au quotidien. Donc il y a cette satisfaction-là, même si évidemment tout n'est pas toujours simple. Moi, j'évoque aussi le sujet de la maternité, parce que j'ai eu un petit garçon il y a 2 ans, donc pendant l'exercice de mon mandat de maire, et c'est vrai que il n'y a pas de choses prévues pour cela, il n'y a pas de congé maternité, enfin si un congé maternité peut être pris, il réduit la rémunération, enfin l'indemnité de manière très très importante. Et typiquement, c'est un sujet qui n'avait pas été pensé, parce que jusqu'ici, il n'y avait pas de femmes, et notamment de femmes en âge d'avoir des enfants, qui exerçaient des responsabilités. Donc ça, c'est un sujet sur lequel les choses n'ont pas été pensées.
Est-ce que vous souhaitez rempiler, Charlotte ?
Absolument.
Ah, ben voilà.
comme je disais, hein, y a la satisfaction malgré tout, la reconnaissance des habitants, de ce que l'on peut mettre en œuvre. J'ai rencontré avant les fêtes pas mal de personnes âgées au moment des repas justement que l'on leur propose en cette fin d'année, qui nous remercient parce que, et notamment les personnes âgées, peuvent être parfois isolées. Et ces animations qu'on leur propose leur permettent aussi de pouvoir se retrouver.
Absolument. Merci vraiment pour votre témoignage, Charlotte, parce qu'il y a à peu près tout. Je pense à peu près tous les aspects qu'on va développer d'ici à 20h. Merci d'être intervenu pour dialoguer avec vous tous qui nous appelez en ce moment au standard. Léa Chamboncel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste fondatrice du média Popol, autrice de « À qui profite la lutte ?» C'est un livre qui va paraître prochainement aux éditions Bellefond. Bonsoir Julia Mouzon.
Bonsoir.
Fondatrice et présidente du réseau des élus locales. Et nous sommes aussi en ligne avec Cécile Duflo, bonsoir.
Bonsoir.
Présidente d'Oxfam, un mouvement citoyen engagé dans la lutte contre les inégalités. Charlotte, elle a à peu près tout dit, alors on va essayer de faire dans l'ordre. Elle dit, c'est une situation qui n'est pas facile de se faire sa place dans une société qui a été conçue par les hommes et pour les hommes. Julia Mouzon.
Oui, alors c'est très juste. Et la première chose que je voudrais vous dire, Charlotte, c'est bravo. Parce que ce n'est pas évident de s'engager, de prendre la lumière, d'entrer en politique et d'y rester aussi. Donc on a besoin de vous, on a besoin de femmes comme vous. On a besoin de cet équilibre aussi. Et on sait que c'est un équilibre qui n'est pas facile à tenir. Le fait d'être élu déjà, les lourdeurs administratives, l'exposition, les attentes des citoyens, et puis le fait d'être une femme en politique avec, comme vous l'avez très bien souligné, des temps qui ont changé. Un grand écart avec ce qui était le cas il y a 40 ans, à savoir un homme qui était en politique et une femme qui assurait à la maison toute l'intendance, ce qui n'est évidemment pas du tout la même chose quand on s'engage et qu'on n'a pas forcément de personne à temps plein pour gérer tout ce qui relève de notre vie personnelle.
Mais quand elle dit qu'il faut se faire sa place dans une société faite par les hommes pour les hommes, Cécile Duflo.
Ben, c'est une réalité presque, j'allais dire, évidente, notamment parce que toutes les femmes qui ont aujourd'hui plus de 80 ans, elles sont nées à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote. C'est pas si éloigné que ça, hein, à l'échelle d'une vie. Et donc je pense que ça reste comme un impensé, que l'idée que la place des femmes en politique est quelque chose qui n'est pas une chose naturelle encore profondément. D'ailleurs, on voit bien que sans les lois sur la parité, mais on y reviendra, ben, il y aurait beaucoup moins de femmes élues. Si on ajoute à ça le fait que les codes du pouvoir sont encore très souvent masculins, ben on voit bien que les freins auxquels font face les femmes qui veulent accéder à des responsabilités sont structurellement plus importants que ceux des hommes.
Oui, et pour autant, elle dit, je ne suis pas là pour décourager les femmes, et elle veut rempiler, même si elle a affaire parfois à des attitudes pas très simple à gérer. Elle nous parlait de réponses parfois désinvoltes. Julia Mouzon, ça c'est une réalité, c'est quand même pas si facile encore aujourd'hui d'être une femme élue.
Ouais, il faut imaginer une femme élue aujourd'hui, c'est comme un alpiniste ou une alpiniste sur une ligne de crête. On attend d'elle qu'elle soit à la fois ferme, mais on va trouver qu'elle est trop agressive si elle tape du poing sur la table.
L'emmerdeuse, elle a dit. Voilà. Alors,
moi, je dirais plutôt que vous êtes déterminée et persévérante. On attend de vous que vous soyez conciliante, mais si vous l'êtes trop, on va trouver que vous êtes molle ou douce. Donc, effectivement, c'est une ligne de crête. C'est cette image-là, et ça l'est encore. On a besoin que ça se généralise, cette présence des femmes en politique, et surtout cette présence des femmes sur les postes de maire et dans les vice-présidences et présidentes d'intercommunalités, pour qu'on puisse sortir de cet exercice aujourd'hui très, très délicat.
Ça, c'est le coup d'après, Léa Chamboncel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on manque encore de femmes, et en particulier dans les petites communes. Comment on l'explique encore, ça ?
Alors, on est aussi là pour parler de la loi sur la parité qui rentre en vigueur pour les prochaines élections.
Oui, alors on va poser tout de suite la loi sur la parité.
On va commencer à spoiler un peu, tout de même. Effectivement, jusqu'à présent, seules les communes de plus de 1000 habitants étaient obligées d'avoir des listes où sont présentés 50% d'hommes et 50% de femmes. Donc sur le scrutin de liste, avec une parité parfaite, aujourd'hui, les communes de moins de 1000 habitants, enfin pour les prochaines élections, vont être également concernées. C'est assez important puisque ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, dans les communes de moins de 1000 habitants, il y a seulement 38% de femmes qui sont élues dans les conseils municipaux. Donc, il va falloir effectivement que cette loi entre en vigueur. Et d'ailleurs, on peut s'interroger quand même, mais pourquoi n'est-elle pas rentrée en vigueur avant? Mais ça, c'est un autre débat. Et donc, effectivement, il faut des lois, puisqu'on le voit bien. Et pour autant, je vais faire un parallèle aussi avec ce qu'on voit au niveau national, avec des lois qui ont été votées dans les années 2000, début 2000, fin 90, début 2000.
Pour la plupart. Date du début des années 2000, hein, la parité en politique. Toutes les grandes lois datent de cette époque-là.
Absolument. Et donc, ce qu'on a constaté, et c'est quelque chose dont on parle assez peu, c'est qu'en fait, on a mis en place donc, ces lois sur la parité en pensant qu'il suffisait de mettre un peu une pièce dans la machine pour que les choses se passent bien et qu'à peu près, naturellement, les choses allaient finalement s'enclencher, qu'il allait avoir une mécanique naturelle qui allait aller vers plus de parité. Sauf qu'en réalité, ce que l'on constate aujourd'hui, notamment au niveau national sur les élections législatives, entre autres, c'est qu'on n'a pas conçu des mécanismes d'effet cliqué anti-retour, on appelle ça en droit public. On n'a pas anticipé le backlash. Et en 2022 et en 2024, figurez-vous que malgré les lois sur la parité au niveau de l'Assemblée nationale, la place des femmes a reculé. Et ça, on en parle très peu.
Et comment vous l'expliquez ?
Je l'explique parce qu'en fait, on a baissé les armes. On s'est dit, ça y est, c'est fait. La parité, maintenant, ça commence à rouler. Donc, aucun problème. On va laisser les choses se faire. Effectivement, bon, sur les premières législatures sur lesquelles la parité a été imposée, il y a eu plus de femmes. Et puis, de fil en aiguille, il y en a eu de plus en plus. Et on se dit, bon, bah voilà, c'est finalement peut-être réglé, ce problème de la parité. Et autre chose, c'est qu'en fait, lorsque l'on ne parle pas de la parité, lorsqu'on n'en fait pas une priorité politique, en fait, la parité n'est pas mise en œuvre. Et ce que j'ai constaté, moi, par exemple, sur la dernière élection présidentielle, c'est que la question de la parité avait un peu disparu du débat public. Ça avait été un enjeu de campagne, un thème de campagne en 2007. Ça avait été un thème de campagne en 2022. En 2017 et en 2012, ça avait été un thème de campagne à la fois pour Emmanuel Macron, qui avait dit « Dépassez votre autocensure, rejoignez les rangs, etc. Venez rejoindre les rangs de La République En Marche. » Et il y avait aussi un mouvement assez important de la part des partis de gauche, notamment les écolos et la France Insoumise, qui avait quand même amené beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale. En 2012, et d'ailleurs Cécile Duflot pourra en témoigner beaucoup mieux que moi, François Hollande avait promis d'avoir un gouvernement paritaire, et balavam, il y a eu le premier gouvernement paritaire. Donc en fait, la question de la parité était un thème de campagne. En 2022, ce n'était plus le cas.
Cécile Duflot, peut-être on va lui demander son avis. Qu'est-ce que vous en dites ?
Ah ben, je pense que Léa a évidemment parfaitement raison. Et c'est d'ailleurs un débat assez intéressant parce que les femmes sont parfois gênées par rapport aux lois sur la parité en disant « Oui, mais du coup, on dit qu'on nous donne des postes parce qu'il y a la parité. » Le fait est que s'il n'y a pas ces règles, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est ce que la meilleure des démonstrations, c'est ce qui se passe dans les communes de moins de 1000 habitants, c'est que ça a 10 points de retard sur les communes où on a mis en place la loi sur la parité. Mais il y a plein d'anecdotes assez cocasses. Hein. La première loi sur la parité aux élections municipales, elle disait il faut faire la parité 6 par 6. C'est-à-dire il faut que tous les 6 élus, il y ait autant d'hommes que de femmes. Ben, toutes les listes municipales, c'était 3 hommes, puis 3 femmes. 3 hommes, puis 3 femmes. Enfin, c'est toujours la même histoire. Et effectivement, je dois dire que quand il y a quelqu'un qui est en charge de ce sujet, ça change tout. En 2012, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui était ministre en charge de l'égalité femmes-hommes. Oui. Et à chaque conseil des ministres, elle surveillait que les nominations soient paritaires. Et ben, en fait, c'était très efficace. Parce que si on ne se préoccupe pas de ce sujet, et c'est ce qu'Oxfam a montré avec son index, avec l'index qu'on a publié l'année dernière et qu'on va actualiser, ben, en fait, s'il n'y a pas de mesure et s'il n'y a pas d'obligation, ben, vous tombez à un taux de féminisation, notre calcul global sur tous les postes de pouvoir, pas seulement à l'Assemblée nationale, c'est 28%.
Voilà, donc on voit bien que vous avez fait chez Oxfam. Hein. Voilà.
Exactement, qui montre tous les postes à responsabilité, qui sont pas seulement on parle souvent des parlementaires, et Léa Chamboncel a parfaitement raison de dire qu'on a moins de parlementaires femmes dans cette législature que dans la précédente, donc ça peut faire marche arrière, que par ailleurs, le dispositif qui consiste à pénaliser les partis, pas s'ils n'ont pas autant de parlementaires femmes que d'hommes, mais s'ils ne présentent pas, juste la présentation des candidats, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la pénalisation financière n'est pas assez importante. Donc il faudrait, je pense, aller plus loin. C'est ce que propose le Haut Conseil à la parité.
Voilà, on va repartir au standard parce qu'on aimerait bien entendre des hommes aussi. Et on a Hervé qui souhaite s'exprimer. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Fabienne.
Soyez le bienvenu. Nous vous écoutons.
Merci. Ben écoutez, moi je trouve que la loi de parité homme-femme au sein des conseils municipaux pour les communes de moins de 1000 habitants, c'est dégradant pour les femmes, parce qu'il a fallu attendre qu'il y ait une loi pour qu'on atteigne cette parité. Mmh. Moi, je vois, je suis élu sur ma commune en tant que maire depuis 18 ans bientôt. J'ai fait un mandat de conseiller auparavant. Sur mon mandat de conseiller, il y avait une femme sur 11 élus, oui. Puisque c'est une commune de 200 habitants. Et moi, quand je suis arrivé à la tête de la commune, j'avais trois femmes. Et j'ai toujours eu trois femmes. Alors, on a atteint un plafond de verre, si je puis m'exprimer ainsi, mais pas par manque de vocation, mais parce que les mamans, puisqu'on a des jeunes femmes sur la commune, elles ont aussi, elles veulent s'occuper de leurs enfants, donc c'est compliqué pour elles d'assumer en même temps un mandat qui, somme toute, est assez chronophage lorsqu'on a des délégations et qu'on
donc
représente sa commune.
Donc elles sont difficiles à trouver, en fait. Vous avez du mal à trouver des femmes?
Alors, j'ai pas eu de mal à trouver de femmes, mais on atteint vite, comme je vous disais, un plafond, et c'est là où c'est compliqué.
Là, Hervé, moi, vous vous représentez là?
Non, absolument pas, puisque j'ai fait trois mandats, j'estime
d'accord.
Maintenant que je vais passer autre chose.
Non, mais c'était pour savoir si vous essayez en ce moment de constituer une liste et si c'était compliqué, c'était ça l'objet de ma question.
Alors, sur ma commune, pour le moment, il n'y a qu'une liste pressentie, et il n'y a pas eu de, puisque la liste est quasiment prête, il n'y a pas eu de difficulté pour trouver la parité.
D'accord.
Et je vois sur les communes alentours, il y a des femmes maires, alors je ne vais pas dire à 50%, mais pas loin quand même, et on a une présidente d'intercommunalité, on a une présidente de région, puisque j'habite dans le sud-ouest, mmh. Et pour moi, c'est normal. Et je ne m'offusquerai pas qu'il y ait un conseil municipal à 100% féminin.
Ah, alors, oui, non, mais ça c'est intéressant. Mais ça existe, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe, Julia Mouzon.
Oui, tout à fait. Alors, bonsoir Hervé. Effectivement, cette loi, elle existe. Alors, pas tant pour les sujets que vous évoquez, mais surtout parce qu'il y a des communes où il n'y a aucune femme dans le conseil municipal. C'est-à-dire que ce que vous décrivez dans votre commune, c'est un effort assez positif pour faire entrer les femmes dans la vie politique. Il faut bien avoir en tête que c'est une révolution culturelle, puisque comme le soulignait Cécile Duflo, il y a encore 80 ans à peine, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Mmh. Donc on est dans cette révolution culturelle. Et en France, on a 320 communes à peu près dans lesquelles il n'y a aucune femme au conseil municipal. Et à peu près 17 000 communes, donc ça représente des millions de Françaises et de Français, dans lesquelles on a moins de 45% de femmes dans les conseils municipaux. Et d'où l'importance, en fait, d'une loi sans laquelle les choses n'avancent pas, et pour pouvoir vraiment pousser la parité et les femmes qui entrent en politique. C'est une révolution culturelle, c'est pas évident, effectivement. C'est pas évident pour certains hommes de trouver des femmes, parce que les femmes ne se projettent pas. Alors, certains hommes aussi...
Ah, c'est intéressant, pourquoi vous dites les femmes ne se projettent pas ?
Ne se projettent pas en politique.
Qu'est-ce que ça signifie ?
Quand elles n'ont vu personne, aucune femme dans leur entourage, être en politique. Elles se disent... les hommes de la commune gèrent, mais moi, ça va être difficile. Mmh. On a aussi certains hommes qui présentent, je pense, assez mal les choses, hein, donc on a entendu ça quand même. Et à l'inverse, dans les femmes qui sont au sein du réseau élu local, on a des femmes mères qui nous disent qu'elles ont du mal à trouver des hommes. C'est-à-dire qu'au bout d'un, deux, trois mandats dans lesquels leurs concitoyens voient une femme mère qui est à l'intercommunalité, qui représente sa commune, qui avance, eh bien, les femmes se disent « bah oui, moi aussi ». Et puis ensuite, il y a toute cette question aussi d'aménagement, de ce que c'est que le temps du conseil municipal, le temps de l'engagement. Nous, on entend aussi des femmes qui nous disent que le conseil municipal commence à 8 heures et se termine à minuit.
Et oui, c'est ça, c'est
et
un
ça,
problème
c'est
quand il y a des enfants en bas âge.
C'est problématique aussi, exactement. Mais,
c'est ce
mais,
que nous disait Charlotte, Hervé, au fond, au début, c'est pas totalement adapté au rythme des femmes, enfin c'est pas toujours
mais
facile.
Mais vous parliez quand même de ces mamans qui veulent s'occuper de leurs enfants, mais j'ai envie de dire que les papas aussi ont envie de s'occuper de leurs enfants. Moi j'ai entendu des hommes élus qui m'ont dit qu'ils regrettaient leur engagement politique parce qu'ils n'avaient pas vu grandir leurs enfants et qu'ils retrouvaient ce lien avec leurs petits-enfants. Donc on a vraiment un changement, une révolution culturelle à faire, avec un cap peut-être un peu difficile à passer sur des effets de seuil, comme ça a été le cas en 2001, comme ça a été le cas en 2015 aussi avec les conseils départementaux et la loi sur le scrutin binominal. nominal, mais ces effets de seuil, ils sont vraiment nécessaires pour qu'on ait un changement culturel qui puisse se faire au niveau des communes et encore une fois pour des millions de Françaises et de Français.
Comment convaincre les femmes de s'engager, Léa Chamboncel ?
Oula ! Alors, il y a plein de façons de le faire. Hein. Déjà, leur montrer qu'elles sont légitimes. Rien que ça, hein, leur dire qu'elles ont toutes les compétences.
Il y a toujours le syndrome de l'imposteur quand même. Hein.
En fait, c'est au-delà de ça. Je vais parler du domaine qui me concerne particulièrement donc, et que j'observe au quotidien, la politique. J'ai le sentiment que la politique est peut-être un des secteurs, un des domaines dans lesquels il est encore assez difficile de faire bouger les habitudes, les règles et les coutumes. C'est assez conservateur hein, comme milieu. Peut-être plus que d'autres milieux, peut-être la culture, enfin bref. Mais ce que je constate, c'est qu'en fait, lorsqu'une femme cherche à s'engager, elle a cette présomption d'illégitimité qui pèse sur elle. On lui donne l'impression que...
De la part des hommes en général ?
De la part des hommes en général.
Ou de ses collègues en politique ?
Oui, de tout le monde, en fait.
Enfin, des électeurs aussi ?
Je vais vous raconter une petite anecdote. Oui. Moi, je m'intéresse à la politique depuis que j'ai 15 ans. Et pour tout le monde, c'était assez étrange à mon époque. Et je me souviens, j'étais à l'époque abonnée au Nouvel Observateur. Et j'étais choquée de voir les publicités, qui n'étaient que des publicités de montres, de voitures. Et je me disais, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on ne s'adresse pas à moi. Mm-hmm. C'est-à-dire que, en fait, les femmes ont tellement été écartées de la chose publique. On a tellement laissé entendre que, de toute façon, ce n'était, les affaires publiques n'étaient pas leurs affaires, et qu'elles relevaient du domestique, du privé, qu'elles n'avaient pas à avoir un avis sur les choses politiques, les choses publiques. Qu'en fait, on a créé un environnement dans lequel les femmes sont exclues, mais elles s'excluent presque automatiquement en se disant « ça ne me concerne pas ». Donc je pense que la principale chose, c'est de dire « ça vous concerne ». Puisque la politique, ça nous concerne au quotidien.
C'est la vie de la
cité. La vie de la cité. Et donc, étant donné que les femmes sont davantage présentes sur le territoire français, 51,7% de femmes par rapport aux hommes, donc nous sommes en nombre, il est normal qu'elles s'intéressent à la vie de la cité et qu'elles aient un avis. Parce qu'en fait, lorsque on se prive d'une intelligence, oui, on se prive de compétences, puisque nous avons toutes et tous des vécus, et nous sociabilisons différemment, etc. Donc voilà, il est fondamental que déjà on leur rappelle qu'elles sont légitimes et qu'on a besoin d'elles.
Bonsoir Florence.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, nous vous écoutons.
Merci. Alors moi, je suis maire d'une petite commune rurale dans le Grand Est, une petite commune rurale de 119 habitants. Et je peux dire qu'on a toujours été plus ou moins au niveau de la parité, au niveau du conseil municipal. On doit être 11 conseillers, ou 9 peut-être, on verra pour le prochain mandat. Et on a toujours eu l'équilibre entre les hommes et les femmes. Donc je pense que les femmes sont légitimes aussi. La démarche à faire, je pense, quand on est maire ou quand on veut créer une équipe, c'est d'aller vers les personnes, d'aller leur expliquer ce qui se passe dans un conseil municipal. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une commune? Et puis, c'est comme ça qu'on peut susciter des vocations. Oui. On est tous capables
pour qu'elles aient moins, pour qu'elles aient moins peur du poste, en fait.
Exactement, parce qu'on est. L'important, c'est aussi de rester modeste, mais de faire confiance et puis de déléguer et d'accompagner. Je crois que c'est ça l'essentiel pour avoir une équipe efficace et que tout le monde ait sa place au niveau d'un conseil municipal. Je crois que c'est essentiel. Chacun ait son rôle à jouer, ses missions et puis travailler ensemble. Je crois que c'est l'essentiel.
Et chez vous, ça se passe bien?
Bien sûr, c'est parfait, c'est tout à fait bien. C'est... Non, il n'y a aucun souci. Alors moi, je vais arrêter parce que j'ai fait 3 mandats de maire. Ouais. Mais les adjoints sont là. Et moi, je prépare la prochaine équipe aussi parce que c'est essentiel de dire...
Le passage de relais.
On reste dans le village et puis bien sûr, il faut passer le relais. Donc voilà, l'équilibre se fait pour la prochaine équipe. A priori, tout va continuer à se dérouler. Voilà, et c'est important de vivre pour la commune et puis pour la communauté de communes puisqu'on est aussi délégué communautaire quand on est maire d'un petit village. Donc oui, il faut faire avancer le territoire et puis se projeter ensemble et travailler
voilà,
en équipe.
Donc la parité,
travailler pour le collectif, voilà. Je crois que c'est essentiel.
La parité, vous la pratiquez et ça marche bien et ça fait du bien d'entendre votre témoignage. Merci Florence. Cécile Duflot, on parlait tout à l'heure de la révolution culturelle à mener. Ça, c'est un point essentiel. Pourquoi ça prend autant de temps ?
Ça prend autant de temps parce qu'on vient de très loin, parce que, et notamment dans la représentation du pouvoir. Et on parlait de tout à l'heure comment les femmes se projettent dans ces responsabilités. Bah, les modèles ne sont pas très très nombreux. Quand vous avez l'image du chef, de l'homme de pouvoir, bah, c'est un homme, je viens exactement de le dire. Et j'ai entendu l'intervenant juste avant qui parlait du fait que la loi sur la parité était dégradante pour les femmes, c'est au contraire. Ce qui est dégradant, c'est de laisser cette situation se maintenir. Et donc, c'est une formule que j'aime beaucoup, qui dit « je n'aime pas les quotas, j'aime ce qu'ils produisent ». Et c'est ce que nous défendons, c'est-à-dire que des règles qui mettent sur un pied d'égalité au départ les hommes et les femmes dans l'accès aux responsabilités permettent justement d'essayer de contribue à réparer un peu de cet immense fossé qu'ont creusé des années d'éloignement des femmes du pouvoir. Et ça vaut pour tout le discours autour de c'est très compliqué de trouver des femmes, elles veulent pas s'engager, ou elles s'occupent des enfants. Ça dit en creux que, en fait, c'est pas les hommes qui s'occupent des enfants dans ces couples-là. Donc là aussi, il y a un sujet. Et ça dit aussi que le système politique et son fonctionnement étaient conditionnés pour être adaptés dans une logique où les hommes pouvaient se consacrer à leur mandat et les femmes géraient l'intégralité de la vie domestique à leur service et souvent même d'ailleurs en ne travaillant pas, avec pas d'autonomie économique. Donc on voit bien que quand on touche à ce sujet-là, on va beaucoup plus loin que la simple parité. On a aussi une question de représentation et d'exercice du pouvoir. Moi, je pense que la mixité dans l'exercice du pouvoir, c'est une chose très positive. En tout cas, dans les moments où le pouvoir se concentre uniquement entre des mains masculines, on l'a vécu ces derniers moments ces derniers temps, dans la manière de gouvernance du président de la République, où il s'est reposé sur quelques hommes, je pense qu'on ne bénéficie pas d'un exercice du pouvoir beaucoup plus adapté à une société complexe, à des enjeux qui sont des enjeux plus compliqués. Donc c'est aussi très utile, c'est pas simplement un droit illégitime, c'est très utile à la société de rendre le pouvoir et l'exercice du pouvoir beaucoup plus mixtes.
Bonsoir Pascal.
Oui, bonsoir. Moi, je vous appelle parce qu'enfin, effectivement, je pense que la parité, c'est quelque chose d'important. Chez nous, dans la commune, c'est un petit village de 120 habitants, on a quatre femmes, dont Madame le maire. Mais le problème va se poser pour la parité avec les nouvelles élections, ou dans les petites communes, nous, en l'occurrence, on était habitués à barrer. On avait une liste qui se présentait.
C'est ce qu'on appelait le panachage. Hein.
Tout à fait, oui.
On barrait des noms, ce ne sera plus le cas.
Ce sera plus le cas. Et du coup, soit une liste complète se présente, donc il y a un individu qui ne pourra plus se présenter. Hein, une personne ne pourra plus se présenter seule. Et je trouve qu'au niveau de l'opposition ou des choses comme ça qui sont dans les communes, ça va être plus compliqué.
Je pose la question à Julia Mouzon. Vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord, Pascal.
Alors, c'est vrai que, encore une fois, c'est un changement. C'est un changement dans la façon de faire, mais on appelait aussi ça le tir au pigeon, quand même, ce panachage. C'est-à-dire qu'on barrait les noms, c'était pas quelque chose de très... C'est individuel, mais ça marche dans les deux sens. Et je crois qu'une commune, c'est aussi un projet collectif. Et qu'arriver avec un projet collectif, justement, que ce soit d'ailleurs un projet qui finisse dans l'opposition ou qui gagne la majorité, c'est quelque chose de très important. Nous, on entend beaucoup parler au sein du réseau LU local de dissensions dans les équipes municipales. C'est des choses qui sont extrêmement dures à vivre pour les élus. Et la dimension, cette dimension collective nouvelle aussi de ce scrutin de liste pour les petites communes, elle me paraît au contraire très importante.
Tout à l'heure, on parlait de plafond de verre. Alors, si on reprend les chiffres, je prends les chiffres de la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, les femmes représentent 17,5% des maires, 26% des adjoints et 45% des conseillers municipaux. Ça veut dire que plus on essaie de monter un petit peu dans la hiérarchie, plus ça devient difficile. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver après au niveau des intercommunalités, Julia Mouzon.
Oui, alors c'est évident qu'il y a effectivement un plafond de verre en politique. On parlait tout à l'heure du chiffre de 38% de femmes élues, en fait. Il faut avoir en tête qu'en France, on a les lois les plus ambitieuses du monde sur la parité en politique. On a des lois sur le scrutin de liste pour les communes. On a la loi sur le scrutin binominal pour les conseils départementaux. Nos conseils régionaux sont paritaires aussi. Donc, en réalité, on a énormément de femmes élues. Et c'est un travail qui est très progressif, qui s'est construit à partir du premier changement de constitution en 1999, mais qui se poursuit cette année, donc avec la loi du mois d'avril sur les communes de moins de 1000 habitants. Et aussi, même déjà en 2015, il y avait toujours des changements et des modifications. Donc, on est en train d'avancer vers cette parité. Et donc, ça change beaucoup, ça change complètement les configurations des conseils municipaux.
Oui, Julia Mouzon, vous voulez ajouter quelque chose ? Non.
Toujours pas Julia Mouze.
Oh, à chaque fois je vous confonds. Pardon, Cécile Duflo, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur les propos de Julia Mouzon?
Oui, notamment sur les conseils départementaux. Vous savez, jusqu'à l'extension de la parité dans les conseils départementaux, qui s'appelaient autrefois les conseils généraux, il y avait des conseils généraux qui n'avaient que des élus hommes, dans lesquels il n'y avait même jamais eu d'élus femmes. Mmh. Aujourd'hui, le taux de parité, c'est 50% sur les conseillers départementaux. Donc en fait, on voit bien que dès qu'on met en place ce dispositif, ça fonctionne. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que notamment là où il y a encore une inégalité assez forte, c'est dans la place des maires, mais plus on favorise un recrutement féminin dans les conseils municipaux, plus on va pouvoir avoir des gens qui vont ensuite pouvoir accéder, et des femmes qui vont pouvoir accéder au mandat de maire. Donc c'est cette logique d'accession des femmes aux responsabilités, c'est une logique progressive. Et on aura de plus en plus de femmes en situation de responsabilité quand on fera bouger les choses. Mmh. Mais je voudrais revenir aussi sur des rôles qui sont importants, notamment dans les communes, que sont les postes de directeur de cabinet ou de directrice de cabinet, de directeur généraux des services, directrice générale des services. Là aussi, il y a encore un gap à remplir.
Mmh, et donc, c'est ça. Quand on monte, ça devient encore difficile.
Exactement, et c'est pas seulement au mandat d'élu, c'est aussi à des postes. Vous pouvez avoir des communes où le maire est un homme, le directeur général des services est un homme, le directeur de cabinet est un homme. Donc cette espèce de triumvirat qui est le point d'appui de la gouvernance d'une commune est purement masculin. Mmh. Et ça, il faut aussi faire bouger les choses sur ce front-là.
Bonsoir Sylvie.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Mais je vous en prie.
Nous vous écoutons.
Alors, moi, je voulais juste envoyer, donc, au salon.
Oui, Sylvie, on a un petit problème, oui. Oui,
non, ça va.
Alors.
Je voulais vous parler, donc, de mon expérience.
Oui.
Et de mon ambition. Donc, la première, j'ai été première adjointe dans une commune de 500 habitants.
Mm-hmm.
Une petite commune de montagne. Et ça m'a beaucoup plu. C'est extrêmement prenant. Il faut savoir qu'être élu, quel que soit du maire ou conseiller, c'est prenant si on a envie de le faire bien. Ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai arrêté parce que je travaillais, j'ai des mères de famille. Vous connaissez l'histoire, on a entendu parler tout à l'heure.
Mm-hmm.
Et mon idée, maintenant, c'est que je me présente pour 2026 aux prochaines municipales parce que ça fait un an que je suis à la retraite. Et j'ai travaillé dans la fonction publique territoriale pendant 20 ans.
Donc là, vous avez du temps.
Et donc là maintenant j'ai du temps, les enfants sont grands, voilà. Alors si vous voulez, il y a une question de temps. Il y a une question aussi la politique m'a toujours intéressée,
mm-hmm.
et au sens noble du terme.
C'est-à-dire faire.
Voilà, c'est très important pour moi. Même si on est dans un petit village, même si on n'était que 30 habitants, ou qu'on soit président de la République, la politique c'est quelque chose de très noble, c'est quelque chose de magnifique. On décide. Et on a envie de décider avec la population en ce qui nous concerne de petits projets, parce que d'une petite commune, donc petits projets. Mais moi, mon ambition, c'est d'être maire. C'est aussi d'être vice-présidente d'une aglo, parce que je ne peux pas être à la traîne comme j'ai su l'être. Donc je pense que les femmes ont leur rôle à jouer. J'ai entendu un maire tout à l'heure vous dire que c'était dégradant pour les femmes qu'il y ait cette loi. Non, je ne suis absolument pas d'accord. Ça n'est pas dégradant. Il n'a pas été dégradant d'autoriser les femmes à voter. Il n'a pas été dégradant d'autoriser les femmes à signer des chèques ou à toucher une paye. Non, ça fait partie, je pense, on est même peut-être un peu en retard, mais je trouve ça très bien qu'il y ait cette loi.
Et ça m'intéresse quand vous dites « je ne veux pas être à la traîne ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ah, parce que, alors, moi j'ai été DGS.
C'est-à-dire directrice générale des services, c'est ça ?
Pardon, directrice générale des services pour un syndicat de communes qui travaillait sur dans le domaine de l'eau et de la biodiversité.
Mm.
Je suis restée catégorie C, c'est-à-dire la petite catégorie, ce qu'il y a au bas de l'étage. Vous voyez ? Si j'avais été un homme, j'aurais été catégorie A, évidemment. Mais peu importe, je ne vis pas sur... ça ne fait rien, j'ai beaucoup aimé mon travail, c'est pas important. Je ne suis pas une féministe, j'adore Madame Duclos, hein, au fait, je le dis comme ça. Je ne suis pas une féministe...
Elle vous écoute.
Oui, bah, tant mieux. je ne suis pas une féministe de si vous voulez, de... Comment, je ne sais pas comment.
Vous voulez dire que ce n'est pas forcément une revendication féministe que de vouloir être mère. Vous voulez être mère pour faire des choses.
Voilà, pour faire des choses, parce que jusqu'à présent, ma petite commune, qui est une ancienne commune, qui est absolument charmante et ravissante, et tout à fait, qui est formée de plein de hameaux. Donc c'est très difficile à unir les gens. Je dis que nous, les femmes, on a mis au monde, on a élevé, on a fait les courses, on a soigné, on a travaillé. Et je pense que nous avons vraiment toute notre place à apporter des idées.
Absolument.
Et à notre voilà, vous voyez ce que je veux dire.
J'entends que cette place, c'est la vôtre et que vous avez envie de la prendre et de l'occuper pleinement. Merci Sylvie. Intéressant son témoignage, Cécile Duflo.
Oui, et faut pas s'excuser d'être féministe, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle, au contraire. Et je vais le dire, heureusement qu'il y a eu des féministes, et certaines d'ailleurs assez virulentes, qui ont permis le droit de vote des femmes. Vous savez, les femmes qui sont battues pour que les femmes votent, elles l'ont fait parfois avec des méthodes très... très direct, on va dire ça comme ça. Effectivement, faut pas s'excuser. Et une femme au pouvoir n'est pas forcément quelqu'un de différent d'un homme au pouvoir. Il faut aussi déconstruire ça. Il faut pas que les femmes accèdent aux responsabilités parce qu'elles seraient mieux ou différentes. Il y a des femmes autoritaires, il y a des femmes qui sont plus qui associent plus les gens. Tout ça, ça varie. Faut juste se dire que c'est normal en fait, et que cette normalité, elle ne peut pas se faire naturellement, vu qu'on trimballe des siècles et des siècles d'exclusion des femmes de ces responsabilités. Et qu'il faut qu'il y ait ces dispositifs pour leur permettre de pouvoir être élus. Et je voudrais vous raconter une toute petite anecdote. J'ai participé à un séminaire de formation de femmes élues il y a quelques semaines, et elles étaient environ 300, et je leur ai demandé qui comptait se présenter, et il n'y a que la moitié des femmes qui ont levé la main. Et c'était très étonnant de voir que, alors que la moitié d'entre elles pensaient ne pas être de nouveau candidates, elles venaient quand même, alors qu'il leur restait 6 mois de mandat, se former. J'ai trouvé que c'était, il y avait une sorte de petit paradoxe très illustrant, et je pense qu'une grande partie d'entre elles, et ça c'est encore la nouvelle frontière, voit aussi beaucoup plus que les hommes la difficulté de concilier vie personnel et engagement. Et ça, c'est aussi parce qu'une partie de la société fait peser sur les femmes cette obligation de tout gérer et d'une certaine manière, de les culpabiliser.
Il y a une obligation de résultat. Julia Mouzon, juste, vous qui êtes présidente du réseau des élus locales, vous travaillez sur la formation des élus.
Oui, exactement. Donc c'est à l'occasion de nos journées nationales des femmes élues que Cécile Duflo a constaté cet engagement. Et c'est vrai que pour nous, le point important sur la parité en politique, c'est que l'absence ou la présence des femmes est en réalité un révélateur. Ce qu'on voit aujourd'hui, et je pense que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent ne se sont jamais projetés dans la vie politique locale, parce qu'il y a la question du temps disponible qu'on a à y consacrer, de la complexité administrative, des horaires, de la violence aussi que vivent les personnalités politiques. Toutes ces questions, ce sont les freins à l'engagement des femmes en politique. Si on veut avoir une vie politique dans laquelle tout le monde puisse être représenté, dans laquelle toutes les voix puissent être élues, on a besoin de lever ces freins et de travailler sur ce sujet de l'égalité, de l'inclusion en politique, pour que toutes les personnes qui en sont naturellement éloignées puissent rejoindre une vie politique et être élues.
Lever ces freins, Julien Mouzon, est-ce qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire ?
Léa Chamboncel, oui, il y a énormément de chemin à faire, comme je vous le disais tout à l'heure. La politique est un milieu hostile pour les femmes, ça c'est évident, donc il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Je voulais juste revenir sur la question du féminisme en politique, parce que je suis très attachée. Il faut des femmes en politique, mais surtout il faut des féministes en politique, parce que c'est grâce aux féministes qu'on arrive à porter les combats. Quand on sait notamment qu'en France, un tiers de la population vit en milieu rural, et près de 50% des féminicides ont lieu en milieu rural. Donc il faut impérativement qu'il y ait des femmes élues féministes qui portent des réformes ambitieuses pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes, pour lutter contre l'isolement des femmes, pour permettre l'émancipation économique et aussi à travers des fonctions d'élus et la vie associative, etc. Donc voilà, il y a tout ça sur lequel il faut impérativement travailler, et je pense que les féministes ont toute leur place pour ça.
Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Léa Chamboncel. Merci à vous Julia Mouzon. Merci à vous aussi Cécile Duflo d'avoir été en ligne avec nous et d'avoir dialogué avec les auditeurs de France Inter. À suivre les petits bateaux avec la question de Lucien, 6 ans.
Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est la démocratie. Bonne soirée.
Là, on pourrait repartir pour un téléphone sonne. Merci.